France Inter.
À finir, seul, dans la foule, ce que j'appelle l'oubli, autour du monde, continuer. Voici quelques-uns des livres du sensible, mélancolique et délicat Laurent Mauvignier, qui explore autant les silences qui écrasent ou abritent ces personnages que leurs bien plus bruyantes émotions. Auteur d'une œuvre multiprimée, il a aussi écrit pour le théâtre et réalisé un court-métrage. Dans son dernier ouvrage, La Maison Vide, paru aux éditions de Minuit, il fouille son propre passé familial à partir d'un lieu fantasmé, la maison en question, qui existe, mais où notre invité n'a jamais mis les pieds et dont il fait hériter son père en fiction. L'occasion de raconter les désirs et empêchements de 5 générations enchâssées dans la grande histoire, traversée par les guerres et les enjeux politiques. Le narrateur se plonge dans les psychés de ses ancêtres, tentant de combler les lacunes d'un récit familial qui parfois lui résiste, tout en montrant les rouages en action dans cette tentative et par conséquent la fabrication littéraire. Le livre figure dans la sélection de France Inter et a déjà été couronné par le prix littéraire du journal Le Monde. Parions qu'il y en aura d'autres. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Laurent Mauvignier.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
L'exposition de Philippe Cogner que j'ai vue, dont j'avais prévu de vous parler tout à l'heure, en fait.
Eh bien, vous voulez qu'on en parle maintenant ? Je crois qu'on a une petite archive de lui, mais attendez, parce que comme nous sommes en direct, je regarde s'il est possible de changer l'ordre des archives qui ont été agencées en ordre savant. Là, vous voyez que je suis en train de meubler. C'est bon, on peut la mettre ? Oui, Philippe Cogner, c'est à vous.
Je crois qu'on vit dans un monde et que le peintre, c'est l'écrivain, c'est un témoin du monde. Si on regarde une ville aujourd'hui, notre monde, moi ce qui me fascine et à fois m'effraie parfois, c'est de savoir que certaines villes concentrent parfois jusqu'à 25-30 millions d'habitants. On se dit, mais c'est de la folie totale, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose à la fois fascinant mais à la fois effrayant. Et l'artiste d'aujourd'hui, il doit être témoin de ça, il a envie de parler de ça, il a envie de parler de ce monde qui le fascine, qui le dépasse, qui le surprend. Moi, c'est ce que j'ai voulu dire dans mes peintures, quelque part, ou ce que je veux toujours, peut-être moi maintenant, pas de la même façon en tout cas, mais je veux parler du monde qui m'entoure, de celui qui me questionne, de celui qui parfois m'angoisse. Je ne sais pas que je ne sois pas un personnage très angoissé, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement fou dans ce monde d'aujourd'hui.
Laurent Mauvignier, vous avez parlé de Pierre Bonnard dans la Grande Librairie, et ce soir, vous avez décidé de parler du peintre Philippe Cogner, on vous écoute.
Oui, c'est vrai, de peintre, mais moi, j'aime beaucoup la peinture. J'allais dire, j'ai besoin de la peinture dans mon univers, dans mon monde, quoi. C'est un art dont j'ai besoin, pas de voir des images de peinture, mais de voir vraiment de la peinture. Le contact, voir des expositions, ça compte beaucoup. Et puis là, donc, j'étais à Sète au festival Les Automnales jeudi dernier, et il se trouve qu'il y a une très belle expo au musée Paul Valéry de Philippe Cogner, donc que j'ai vu et vraiment que je vous invite tous à aller voir si vous passez par Sète, parce que vraiment c'est une très très belle expo. Ouais.
J'aimerais citer vos mots que j'ai découverts par l'entremise de l'écrivain Étienne Kern, qui a récemment posté sur son compte Twitter, je sais qu'on ne dit plus Twitter, mais tant pis, je suis une rebelle, ou une très vieille personne, un extrait de votre livre d'entretien avec Pascaline David, Les Motifs. Je vais vous lire l'extrait si vous acceptez, parce que je le trouve magnifique. Vous savez, les gens perdent beaucoup de temps parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs admirations. Mais on ne les surmontant pas, la singularité de leur propre voix ne peut pas se faire entendre. Oui, il faut renoncer à vouloir devenir les écrivains qu'on admire pour pouvoir découvrir la tessiture de notre voix. Il faut assumer de trouver en soi un auteur qui n'est pas forcément celui dont on rêve. On préférerait écrire les livres des autres, sans doute parce qu'on se dit qu'ils sont plus beaux, plus intelligents, plus forts. N'empêche que vous êtes là où vous êtes et il faut savoir trouver cet endroit qui n'est qu'à vous. Laurent Mauvignier, où en êtes-vous de cela ? Acceptez-vous d'être vous ?
Beaucoup plus maintenant, ouais, je crois. Je suis plus apaisé de ce point de vue-là. J'ai l'impression, depuis deux ou trois livres, d'avoir trouvé un espace, en tout cas pour le roman, qui me convient, où je me sens en possession de mes moyens, disons. Après, là où il y a toujours de l'inquiétude et c'est une fois qu'un livre est terminé, c'est l'angoisse de se dire, ce livre il est derrière moi, donc qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Mais si on enlève cette question du vide en fait entre deux livres, parce que ce qui est insupportable, les gens disent souvent, vous devez être angoissé à l'idée d'écrire, de pas y arriver, etc. Mais en fait non, moi je suis bien quand j'écris un livre. C'est entre deux livres que l'horreur, c'est entre le vide entre deux livres, c'est ça qui est difficile. C'est cet espace-là pour moi qui est là complètement impossible à apprivoiser.
Donc vous vous y remettez tout de suite ?
En tout cas, j'essaie de... C'est pour ça que je suis venu au théâtre, c'est pour ça que j'ai besoin de d'autres écritures, d'autres supports, d'autres... aussi parce que j'ai d'autres envies, mais c'est... ça me permet d'être toujours... d'avoir un roulement, parce que j'ai vraiment compris, j'ai mis du temps, mais j'ai compris au bout de quelques années que vraiment... Le temps entre deux livres était vraiment insupportable, quoi. Donc je m'arrange pour avoir toujours du travail à faire.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Laurent Mauvignier, vous avez grandi en Touraine, dans une commune appelée Descartes, et je voulais vous poser une question évidemment sur le philosophe, puisque la commune rend hommage au philosophe, et je ne vais pas le faire. Je vais passer directement à une autre question concernant votre enfance, et je vois vraiment que vous êtes soulagé à cette nouvelle. Et pourtant, on va parler de colère. Vous étiez un enfant sage, mais intérieurement très en colère. Alors pourquoi ? Et où en êtes-vous de cette colère aujourd'hui ?
Je suis toujours très calme.
Mais en colère ?
Non. Ouais, c'est une sorte de colère intérieure qui est... Je pense d'ailleurs qu'une colère qui a un peu motivé l'écriture de La Maison Vide, parce que c'est une colère dont je me suis toujours demandé quelle était son origine. Une colère liée à, je sais pas, l'impression d'une sorte de renoncement dans la vie. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais enfant, j'avais l'impression que je regardais le monde des adultes... une sorte de circonspection. J'avais l'impression que quelque chose était un peu faux, un peu contraint, et que tout était joué d'avance, en fait. J'avais l'impression qu'on me disait que ma vie, et puis celle des autres, pas seulement la mienne, mais que tout était déjà joué, en fait. Et donc, il y a quelque chose en moi qui me disait... Non, surtout pas, quoi. Et j'avais ce sentiment-là, notamment, par exemple, je venais d'une famille ouvrière où à la fois on était de gauche, mais où il était obligatoire d'aller à l'église tous les dimanches matins, quand même, à coup de pied au cul, si on voulait pas y aller. Et je me souviens qu'il y avait toujours ce Christ-là en bois tous les dimanches matins. Il y a quelque chose là-dedans qui me... Je le voyais pas du tout comme mon sauveur, mais je voyais comme au contraire une sorte d'immobilisme totalement mortifère, une espèce de condamnation. Alors là, un fatalisme horrible, quoi. Et le but, c'était de dire non, il faut s'enfuir de ça, quoi.
Pourtant, on va parler des répétitions et des jeux de miroirs et des cercles, des histoires familiales qui se transmettent ce soir à travers votre livre. Mais quand vous étiez petit, Laurent Mauvignier, vous parliez non pas à un ami imaginaire, mais à l'adulte que vous seriez, en lui disant « Ne m'abandonne jamais, rappelle-toi de tout ». Est-ce qu'il a tenu sa promesse ?
Oui. Oui, ça, je peux dire qu'il a tenu sa promesse, parce que c'est vrai que c'était... Enfant, je me souviens vraiment, par exemple, peut-être ça se fait moins maintenant, mais à l'époque, les adultes parlaient devant les enfants, mais comme s'ils n'étaient pas là.
C'est vrai.
C'était vraiment quelque chose comme si eux-mêmes n'avaient jamais été enfants. C'est-à-dire, c'était moi ce qui me posait vraiment question. Je me disais, mais c'est bizarre parce que avant d'être adulte, il faut bien passer par l'enfance. Et j'avais l'impression que les enfants et les adultes étaient vraiment séparés de manière définitive, qu'il y avait quelque chose d'infranchissable entre eux.
Que les adultes étaient nés avec un attaché-caisse directement.
Voilà, ouais. Là, en l'occurrence, pas d'attaché-caisse, plutôt une tenue de travailleur, mais voilà. Et puis que les femmes étaient des femmes, les hommes étaient des hommes, et que tout le monde était à sa place, et que c'était comme ça, quoi. Et donc, c'est vrai que j'avais ce truc de me dire, mais... quand je serai grand, je veux ce que je vois enfant, le monde auquel j'assiste, je veux pas l'oublier parce que je veux pouvoir me pas seulement m'en souvenir, mais aussi me dire ne perds pas ce regard que tu as eu, n'oublie pas tout ça.
Alors, vous avez commencé à écrire à l'âge de 8 ans et dans un article de Libération, mais qui date de 2000. Vous dites, il est dit que vous avez le même bureau depuis l'âge de 8 ans. Alors, est-ce que vous avez toujours ce bureau ?
Ouais, je l'ai toujours, ouais.
Donc, vous êtes très fidèle à l'enfant que vous étiez. Vous êtes en plein processus de rajeunissement. Là, vous avez des boucles d'oreilles de rocker.
Ouais. Ouais, ça c'est pour d'autres raisons, mais là c'est la période adolescente, mais ça c'est encore un autre dossier.
C'est
un
la
autre
jeunesse.
Dossier. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Ouais, non, j'ai un grand attachement à l'enfance et à la jeunesse. Et j'ai toujours ce bureau, alors je l'ai surélevé, mais je l'ai toujours, et c'est une sorte de compagnon, comme j'ai gardé beaucoup de choses. Ouais.
Il y a une question que je voudrais vous poser, vous avez eu des problèmes de santé très jeune, vous avez été hospitalisé dans les années 70 à plusieurs reprises alors que vous vouliez consacrer votre vie au sport, et à l'hôpital, alors que chez vous il n'y avait pas de livres et qu'on regardait la télévision, on vous a offert des livres et des cahiers, et vous avez rempli les cahiers. Mmh. Et pendant l'écriture de la maison vide, vous êtes tombé malade, et il paraît qu'à l'hôpital, les infirmières vous grondaient en vous disant « Mais arrêtez d'écrire, reposez-vous bah, !» Donc, est-ce que c'est lié au corps empêché, l'écriture ?
En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est né à partir d'un empêchement. Ça, c'est pour ça que j'ai besoin d'une écriture, d'une phrase qui se déploie, d'une phrase ample, d'une phrase organique, vivante.
Et qui court, qui fuit.
Qui court, ouais. Ça tout... Le premier personnage que j'ai écrit, c'est un enfant qui court.
Petit.
Quoi. Petit, ouais. Qui avait mon âge, 8-9 ans, comme ça, et qui court, quoi. Et cette idée de la course et du souffle, et du... Ça, je l'ai... Il y avait ça dans ce livre très court que j'avais écrit, qui s'appelle « Ce que j'appelle oubli », qui est une seule phrase, où c'est vraiment... Pour moi, l'écriture se... un lieu de vie contre la mort, quoi, contre les empêchements sociaux et autres, mais d'abord quelque chose de plus lié vraiment à un besoin organique de vie, quoi.
Alors justement, votre père s'est suicidé quand vous aviez 16 ans. À ce moment-là, vous avez essayé d'écrire autour de cela et vous avez eu honte. Mmh. Et pendant plusieurs années, vous avez cessé d'écrire, vous êtes tourné vers la peinture.
Ouais.
Puis finalement, c'était pas possible.
Ben non, parce que j'avais quelque chose, je sais pas, l'écriture. Je sentais qu'il fallait que je passe par ça jusqu'à. Bon, après, je me disais peut-être que je serais jamais écrivain, mais au moins je voulais aller au bout de ça. Et voilà, vers 30 ans, au chômage, je me suis dit il faut vraiment que je règle mes comptes avec cette ombre comme ça sur moi, cet imaginaire de l'écriture. Et puis voilà, je suis allé. Au bout de ça, puis il y a eu mon premier roman et les choses ont suivi. Mais c'est vrai que quand mon père est mort, quand j'ai essayé de faire ça, ça m'a dégoûté de quelque chose que je vois encore beaucoup, parfois dans la littérature, etc. Cette petite manie un peu surplombante de certains écrivains ou de certains livres dont le ton est... Comme si on allait pouvoir avoir de la maîtrise sur les choses, en fait. Vous voyez, comme s'il suffisait de savoir pour pouvoir.
Alors, ce qui frappe justement dans votre roman, c'est que vous, parfois, des scènes vous échappent et vous l'écrivez. Vous dites, non, ça me résiste, mon stylo tremble, je n'y arrive pas.
Oui, mais bah ça, pour le coup, je pense que ça vient de la peinture. Parce que dans la peinture, par exemple, Je me souviens d'un livre que j'avais vu sur Matisse où il y avait des tableaux où vous voyez plein de repentir, vraiment des gestes où vous voyez vraiment qu'il avait galéré sur son tableau.
Vous pouvez dire juste pour les auditeurs qui ne sont pas familiers à la peinture, ouais, ce qu'est un repentir ?
Alors, le repentir, c'est l'art de revenir sur une forme et de laisser la trace de ce qui reste, en fait, du premier passage.
Version, ouais.
Voilà, donc, et moi, j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve que, par exemple, ça, c'est quelque chose que l'art pratique beaucoup, et qu'en littérature on pratique pas, mais alors quasiment pas du tout. Et je me dis, mais quel dommage, parce que le processus d'écriture doit faire partie de l'aventure, en fait. Pour moi, on n'est pas là que pour raconter une histoire, on est là aussi pour que le lecteur il éprouve aussi ce cheminement qui est celui de l'auteur, mais qui est aussi celui que le lecteur doit faire aussi.
Et vous le mettez en scène, justement, ce processus d'écriture. Et dans La Maison Vide, donc c'est un narrateur qui cherche à reconstruire l'histoire de ses ancêtres paternels. C'est vous sans être vous. Ce sont les histoires qu'on vous a racontées, que vous avez fantasmées. Vous dites que ce sont des suppositions, des spéculations. Il y a quand même des faits qui vous sont vraiment arrivés. Et dans une interview de 2004, vous disiez ceci, Laurent Mauvignier, « Je viens d'une famille épouvantable, j'en change la nature en faisant de la littérature. Il s'agit de transformer sa vie en mythe. » Je trouve ça très beau. C'est pour la rendre plus supportable ou pour s'approprier une histoire faite de lacunes qu'on ne pourra jamais maîtriser, justement.
Ouais, alors, je veux juste préciser, quand je dis que j'ai une famille épouvantable, il s'agit pas de ma famille proche, c'est-à-dire pas de mes frères et sœurs ou de mes parents, pour qui j'ai eu toujours et pour qui j'ai toujours énormément d'amour. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'aspect épouvantable, c'est parmi certains cousins dans la famille au sens large du terme, là, des choses qui ont été totalement délirantes, quoi, vraiment délirantes, et dont je me sers toujours, parce que j'en suis toujours pas revenu, d'une certaine manière. Et ça, si vous voulez, je l'ai tellement vécu comme... vraiment, je pense, comme une blessure narcissique, peut-être, je sais pas, mais comme une espèce de et j'avais l'impression d'être dans quelque chose, de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette famille de fous, quoi. Et puis, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, mais en fait, tout ça... ça peut complètement s'inverser. Faisons de nos défauts, faisons de nos lacunes, faisons de nos manques quelque chose qui, au contraire, nous peut être beau. Et là, je pense que les beaux-arts m'ont aussi beaucoup aidé sur ça, quoi. C'est-à-dire, on peut transformer tout ça. Et je trouve que quand on parle des alchimistes, l'idée de transformer le plomb en or, au fond, c'est juste l'histoire de l'art, ça.
Oui, de la boue, de la matière, ouais, qui ressemble à de la boue qu'on agence sur une toile et on en fait,
voilà,
la beauté.
Mmh.
Parfois.
Parfois, ouais.
Dans l'enfance.
Dans le meilleur des cas.
Oui, dans le meilleur des cas. Vous dites que les récits vous ont été transmis par votre mère, puisque dans votre famille, les hommes étaient des blocs de silence. Et dans La Maison Vide, au sujet de votre grand-mère Marguerite, je peux dire votre ou vous préférez que je dise le narrateur ?
Oh, le narrateur.
D'accord. Ouais. Alors, au sujet de la grand-mère du narrateur Marguerite, il est dit qu'elle était une forteresse de silence que personne n'a jamais osé ou voulu ouvrir.
Si vous voulez, si je vous dis que c'est plutôt la grand-mère du narrateur, c'est qu'elle a été, dans ma vie, à moi, une telle forteresse de silence que je n'ai rien à vous dire d'elle, je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est la façon dont on a organisé le silence autour d'elle. Donc, moi, j'ai eu besoin de passer par un narrateur pour dire, voilà, cette grand-mère, je suis obligé de l'imaginer, c'est la mienne, mais d'une certaine manière, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de beaucoup de monde.
Alors, ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est l'image d'un gamin de 7 ans, votre père, le père du narrateur, pardon, qui voit sa mère se faire tondre à la libération. Sa mère, c'est la grand-mère du narrateur, Marguerite. Non, là, je suis en train de dire n'importe quoi. Qui voit sa mère se faire tondre,
ouais,
à la libération.
Alors, là, pour le coup, je peux endosser la...
Vous l'endossez, là.
Ouais, parce que c'est vraiment l'image qui a déclenché le besoin de ce livre, mais je peux dire même plus, c'est un livre, cette image-là, elle est vraiment, c'est une image liée vraiment à mon enfance, et je pense que c'est peut-être pas cette image-là, mais en tout cas, elle fait partie des quelques images qui ont décidé de ma vie d'écrivain. Je veux dire, qui m'ont porté vers l'écriture. Donc, c'est, pour moi, elle est vraiment... elle a quelque chose de très archaïque pour moi, vraiment au sens noble du terme, et très fondatrice. Donc là, je l'assume totalement en tant qu'auteur, quoi.
Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que votre ouvrage « Histoire de la nuit », vous dites... au détour de quelques pages, on voit la maison vide être évoquée justement. Et le point de départ de ce livre, c'était le regard d'une petite fille terrifiée dont vous vous sentez très proche en tant qu'écrivain. Mmh. Et là, le déclencheur de la maison vide, c'est votre père qui voit sa mère se faire tondre à la libération puisqu'elle a trouvé... Je peux dire pourquoi ou pas ? Pourquoi elle se fait tondre ou je laisse le suspense ?
Oh, laissons le suspense.
Alors, laissons le suspense.
Un peu de vide, un peu de
bien
vide.
Bien sûr, bien sûr. Mais le narrateur veut sauver ce pauvre petit papa de 7 ans. Donc, je vous cite. Est-ce que ça part à chaque fois d'enfants en souffrance qu'on veut consoler ? Est-ce que vous avez eu envie de consoler le Laurent Mauvigné enfant en écrivant ce livre ?
Le consoler en écrivant ce livre Je sais pas si c'est consoler ce Laurent Mauvigné ou si c'est consoler une part d'enfance, mais sans doute, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas seulement ma part d'enfance, mais j'ai envie de dire la part d'enfance de tous les adultes que nous sommes. À chaque fois, je suis toujours... quand je vois tout ce... tous ces adultes-là, je me dis, mais quand même, moi j'entends cette part d'enfance qui crie en eux, quoi. Vous voyez, quand on voit tous ces, je sais pas, les politiques, tous ces gens très très sérieux, tout ça, on a envie de dire, mais quand même, il est où l'enfant, là ? Il est où ? Moi, c'est ça que j'ai envie d'aller faire vibrer un peu, résonner un petit peu. J'ai envie de dire, bon, quand même, vous avez été un petit enfant, quand même. Ce petit enfant, il existe encore, quelque part. Il est là, forcément. Comme le vieillard que vous serez, il existe déjà. Je trouve que les adultes perdent trop de temps à essayer de faire d'eux des gens forts. Ils n'acceptent pas du tout de vivre avec la fragilité qu'ils ont... accumuler, c'est une richesse, la fragilité, c'est pas la faiblesse. Et je trouve qu'on travaille pas sur soi suffisamment avec ça. Même quand on veut faire du yoga ou je sais pas, ou vous voyez, où on se dit on va faire des choses pour être bien, c'est quand même toujours pour être plus fort. Alors que parfois, non, mais il faudrait aussi savoir, il y a des choses sur lesquelles on se tient pas bien sur ses pattes, et ben c'est pas forcément grave.
Alors, en parlant de gens qui ne se tiennent pas sur leurs pattes, parlons des fantômes. Puisque wow, cette transition était vraiment acrobatique. Ce livre, La maison vide, c'est pas une maison vide. La maison est peuplée de fantômes. Ça commence avec une arrière-arrière-grand-mère. C'est ouais. La première figure féminine. Ombre chétive entend quelques photos et rend à l'arrière-plan. Et puis, il y a l'arrière-grand-mère, Marie-Ernestine. Et je vais vous laisser nous lire un extrait de votre livre pour nous en parler, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui concerne un piano.
L'expression d'une joie trop grande, d'un bonheur trop parfait. On lui offre un piano et un mariage. Elle pleure et soudain le noir du piano porte le deuil de son avenir. Soudain la musique ressemble à une marche funèbre qu'elle ne veut pas entendre et encore moins jouer. Elle recule, s'écarte de son père. Et pendant que le jeune homme trop gros avance, Marie-Ernestine n'entend plus son père ni sa mère, les femmes qui servent les verres, les bouteilles qu'on ouvre, ça trinque, les verres, les mains, des tapes dans le dos, des rires. Le jeune homme trop gros n'ose pas regarder du côté de Marie-Ernestine, mais déjà elle le fixe et s'étonne, s'étouffe. Sa gorge se serre et son cœur dans sa poitrine s'emballe. Elle vacille, le souffle lui manque, sa respiration comme des coudées d'air malsain, poussiéreux, vicié, de la sueur de bois venant de la scierie maudite de son père. Et elle n'a pas même le temps de voir la mine déconfite, le visage de Pierre, l'allure scandalisée dans le corps dressé droit, raide, de la grand-tante Caroline, qui semble encore plus ébranlée qu'elle ne l'avait été à la mort de son mari, et qui soudain tourne les talons et s'en va sans dire un mot à personne, bien décidée à ne plus rien avoir à faire avec un pareil naufrage.
Alors le jeune homme trop gros, c'est le mari qu'on lui impose, qui ne sera pas toujours trop gros, hélas, mais je n'en dis pas plus. Et Marie-Ernestine va engendrer Marguerite, la grand-mère du narrateur. Elle ne la désire pas, elle ne lui manifestera jamais de tendresse, et vous utilisez, Laurent Mauvignier, le piano d'une façon très belle, comme si le piano donnait, par sa musicalité, la tendresse que Marguerite n'avait jamais reçue de sa mère. Et à nouveau, en fait, je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, d'écrire un mythe, de s'inventer un mythe familial. Marguerite va s'inventer aussi un mythe familial en écoutant ce piano, puisque sa mère ne voudra jamais jouer devant elle.
Ouais, c'est d'autant plus étonnant, en fait, qu'elle s'accroche à la fille, Marguerite s'accroche à ce piano, à la relation, elle fantasme une relation à travers le piano, comme ça, comme si elle rencontrait sa mère, comme si c'était par le piano qu'elle pouvait rencontrer sa mère. Alors qu'un mythe, il y en a un autre, et c'est celui, effectivement, de la mort de son père, le héros de Verdun. On lui impose un mythe qui est tellement écrasant, tellement étouffant, tellement insupportable que ça se finira mal pour elle. Mais ça, c'est vrai que c'était moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Cette histoire de l'héroïsme, et de l'héroïsme comme fiction collective qui finalement déshumanise tous ces héros morts pour la guerre, morts à la guerre, morts pour la France, morts pour... mais en fait, on leur enlève leur humanité d'une certaine manière. On les grandit, certes, mais on en fait des images, des symboles, et on oublie peut-être juste qu'ils auraient préféré être chez eux plutôt qu'aller à la guerre. Et cette enfant, Marguerite, elle naît dans l'obligation, pas d'aimer son père, mais de fantasmer la figure héroïque, et donc figure à laquelle elle doit se tenir, et donc elle doit être comme ça, elle doit être irréprochable, elle doit être meilleure que les autres, elle doit avoir un comportement qui doit être à la hauteur d'une figure fantasmée aussi, quoi.
C'est très beau ce que vous dites, parce que pour vous, le collectif, c'est pas une masse indistincte. Et par exemple, je sais que vous êtes contre l'expression « la foule des anonymes », puisque vous dites que ce sont des inconnus, pas des anonymes. C'est grave d'insinuer que seuls les gens connus ont droit à un nom écrire, c'est travailler à détruire ce langage de pouvoir et de mépris de classe.
Ah oui, mais ça, c'est vrai que ce côté « les anonymes » était l'enterrement d'un tel, mais ça me rend dingue. Parce que, non, les gens ont chacun... C'est pas parce qu'on est inconnu qu'on n'a pas de nom. Enfin, mais quelle horreur, quelle idée. Je comprends pas que. On peut imaginer en plus que les journalistes qui disent ça, par exemple, sur n'importe quel reportage, le font en toute bonne foi et sans malveillance, bien entendu. Mais c'est quand même atroce ce que ça induit. Alors peut-être parce que je suis évidemment sensible à ce que disent les mots, mais parfois on leur fait dire des choses qui sont terrifiantes et ce qu'on mesure pas toujours.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Laurent Mauvignier, vous publiez une magistrale fresque sur 5 générations, La Maison Vide, aux éditions de Minuit. Et alors, en parlant de fresque, j'ai pensé à deux figures en vous lisant. C'était d'abord Émile Zola, et il est littéralement dans le texte, ouais, puisqu'il est offert, plusieurs tomes de ses écrits sont offerts, je ne dis pas à quelle occasion, et aussi à Balzac. En fait, j'ai pensé aux écrivains du 19e siècle, pour la cruauté avec laquelle vous traitez vos personnages. Mais en fait, c'est une cruauté tout à fait humaine et tout à fait atemporelle. Mais c'est-à-dire que vous ne les épargnez jamais. Ce qui se passe est terrifiant. Les gens sont mauvais. On peut leur prendre tout leur argent. Ils peuvent tout perdre à chaque minute. Ils peuvent avoir envie de se suicider. Voilà.
C'est sûr que le roman du 19e compte énormément pour moi, comme il compte pour tout le monde, parce que...
Les femmes sont abusées.
Disons que quand vous commencez une sorte, de fresque, je ne sais pas comment dire ça, mais vous entrez dans cette matière comme ça, qui est du passé, vous avez les histoires qu'on vous a racontées, les histoires familiales, mais elles se mêlent forcément à un imaginaire qui est l'imaginaire qu'on a tous, c'est-à-dire avec des références liées au 19e siècle, liées sur un imaginaire sur lequel on est tous un peu construits, quoi. Alors, la question de la cruauté, il y a la cruauté de cette espèce de réalisme, peut-être, mais qui est un petit peu... Vous savez, on est dans un monde où il y a tellement de choses où on essaie de nous faire... Comme le monde est dur, on essaie de nous faire parfois des... gober des trucs, un art un peu sympathique, un peu gentillé pour pas dire certaines choses. Quoi.
Vous ne trouvez pas au contraire là l'art s'empare beaucoup de tout ce qui se passe dans le monde?
Heureusement. Mais je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de distractions et c'est très bien. J'ai rien contre d'ailleurs.
Il y en a eu à tous les siècles.
Ouais, mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est bien qu'on puisse intégrer dans des romans, cette part de cruauté qui est, à la fin, ils ne se marièrent pas et sont pas forcément heureux à la fin. Quoi. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'enfants et tout se passe pas forcément très bien. Pour autant, moi, j'essaie quand même de faire que tous les personnages ont, je ne sais pas les sauver, mais suffisamment d'humanité pour qu'ils ne soient pas que des méchants affreux, que tout soit sombre. Non, j'essaie de créer, j'allais dire, là, pour le coup, je pense plus à la sculpture qu'à la peinture, suffisamment de relief pour un personnage. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de chaque livre, on ait l'impression d'avoir rencontré des gens, des personnes, et pas des personnages.
C'est ce que vous appelez aussi les romans horizontaux, quand tout le monde a autant d'importance.
Ouais, cette idée vraiment de faire que... Et puis que chacun ait sa chance, un petit peu, même quelqu'un de vraiment avec qui on n'aurait pas envie de partir en vacances ni de dîner, que malgré tout, on se dise « Ouais, mais c'est pas qu'un salaud, il est plus complexe que ça, il a quelque chose, on peut comprendre ça sans justifier, mais en tout cas, on peut essayer de voir qu'il a plus de relief, en fait. »
Par exemple, Marie-Ernestine, qui ne donne aucune tendresse à sa fille, elle a été très malheureuse parce qu'elle a dû renoncer au piano et à quelqu'un pour lequel elle avait un béguin qui était lié à ça, à la beauté. Et moi, ça m'a fait penser... Jules, donc celui qui est trop gros et qui l'aime véritablement, ouais. Contrairement à elle, ça m'a fait penser à Charles Bovary.
Bah oui,
pour lequel j'ai beaucoup de tendresse.
Bah oui, mais moi aussi, ouais. Mais c'est vrai que tout ça, pour moi, ça, à partir du moment où j'ai commencé à essayer de tresser des histoires entre elles qui étaient liées à des époques, plus je reculais dans le temps, plus évidemment les personnages devenaient des personnages de romans, parce que pour moi, par exemple, le personnage de Firmin, quand j'essayais simplement de me demander comment il était...
Très balsacien, la description.
À un moment, on va vers ça, forcément. D'ailleurs, l'enterrement de Firmin, c'est l'enterrement ornant de Courbet. Il y a la peinture aussi, bien sûr. Et en même temps, en essayant de faire que ce ne soit pas quelque chose de référencé, genre, il faudrait avoir lu tout ça pour... Non, de faire que chacun puisse entrer là-dedans et qu'il se sente dans sa maison. Chez lui.
Dans sa maison, et d'ailleurs, vous bousculez beaucoup la chronologie, et ce n'est pas anodin, puisque vous dites porter sur les événements du passé un regard d'aujourd'hui. Et vous parlez en effet des femmes, de la guerre, et de la vie domestique et intérieure des gens pendant la guerre.
Oui, parce que même la façon de parler, par exemple, de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, j'essaie de les voir un petit peu comme un seul bloc. Jusqu'à maintenant, je suis partie d'une génération où on a vraiment appris la Première et la Deuxième Guerre mondiale de manière extrêmement séparée, alors qu'en fait, il n'y a que 20 ans entre les deux, et finalement on s'aperçoit que ça concerne une question de génération, une génération en fait, c'est tout. Les enfants sont, ou en tout cas les jeunes gens des années 40 sont totalement dépositaires de ce qui s'est passé en 14, quoi. Donc pour moi il y a quelque chose vraiment de très fort à lier entre les deux, et je suis à peu près certain que plus on va avancer dans le temps, plus ces deux événements, on les regardera comme un seul événement, quoi. To your soul, cry. Leave in the morning with everything you own in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on the soft and lonely face. Mother will never understand. Answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away.
D'un célèbre morceau, et c'est votre choix musical. Qu'est-ce qu'on entend ?
Alors, Birds on Wire, la chanteuse, c'est Rosemary Stanley, et que certains peut-être connaissent pour le groupe Moriarty.
Là, elle est avec Dom LaNena.
Ouais. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle a une très belle carrière, etc. Mais je trouve que j'entends pas assez parler d'elle. Donc, et puis là, elle va sortir un disque dans, là, je crois.
Ouais, le 3 octobre, Nuit Ardente.
Voilà. Et vraiment, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'ai vu en spectacle il y a pas très longtemps. Elle jouait une réinterprétation de Carmen qui était formidable. C'est vraiment, voilà. Donc j'invite tout le monde à écouter ça.
Alors, en parlant des autres arts, bon, tout à l'heure, on a parlé de la peinture. D'ailleurs, ça a un peu émaillé l'émission. Vous êtes intéressé aussi à la photo, en écrivant les textes de la monographie consacrée au photographe Jean-Pierre Favreau.
Ouais.
Au théâtre, vous avez écrit pour le théâtre.
Ouais.
Vous avez même réalisé un court-métrage intitulé Proche, dont le dispositif était assez théâtral.
Ouais,
Et votre roman continué a été adapté au cinéma par Joachim Lafosse. Est-ce que c'est étrange de voir ces écrits adaptés ?
Au cinéma, oui, c'est étrange, mais c'est étrange de savoir qu'ils existent, en fait.
Qu'ils existent parce que vous les avez écrits ?
Oui, de savoir que quelque part, ils sont là. Donc, en fait, c'est pas plus étrange de voir une adaptation que de voir je sais pas, que de repenser à l'écriture de ce livre, de penser aux personnages. Pour moi, c'est toujours étrange, en fait. Donc c'est, oui, c'est étrange, mais c'est j'allais dire, c'est des espèces de spectres comme ça qui viennent. Mais vous savez, il m'arrive par exemple dans la rue de croiser mes personnages des fois.
Alors, expliquez-nous.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a pendant très longtemps, par exemple, je pense à mon premier roman, à Loin d'eux, ce personnage de Luc, qui est un jeune homme qui s'est suicidé à 25 ans, etc. C'est mon premier roman. Et pendant des années, il m'est arrivé et même encore moins maintenant, mais quand même, il m'est arrivé, je sais pas, de croiser des jeunes gens, et à chaque fois, je disais, c'est Luc, et à chaque fois, j'avais envie d'aller voir la personne pour lui dire, non, tout va bien se passer, fais attention à toi, tout va bien se passer, mais faut être solide, tu vas tenir, et souvent, ça m'arrive souvent dans le métro, j'adore regarder les gens et souvent j'ai l'impression qu'il y a des silhouettes comme ça, que je pourrais croiser mes personnages. Je vais devenir complètement fou hein, mais en vieillissant, mais pour moi ça c'est très important. Et voir une adaptation, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est un peu cette impression-là.
Vous avez aussi travaillé avec le chorégraphe Prège Locage.
Ouais.
En fait, tous les arts vous intéressent. Si vous pouviez, si on était dans un monde faustien, mais sans Méphistophélès,
ouais,
évidemment, est-ce que vous, à quoi toucheriez-vous d'autre ?
Ouais, à peu près à tout, je crois. Ouais.
Qu'est-ce qui vous manque là, par exemple? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer?
Le cinéma, bien sûr.
Vous avez déjà fait un court-métrage?
Ouais, mais ça j'ai une grosse faim de ce côté-là.
En tant que réalisateur, scénariste?
Les deux. Et puis le théâtre aussi, bien sûr. Le théâtre, j'ai fait une mise en scène, j'ai adapté la version de Proche. Mais pour moi, tout ça, c'est le prolongement de l'écriture. J'ai pas l'impression que ce sont des gestes séparés, en fait. J'ai l'impression que c'est une sorte d'arborescence, de continuité, de... Vous savez, Beckett, les dernières œuvres, il y avait les trucs genre What ou des choses comme ça, ou les pièces pour la télévision, par exemple, où il y a presque, où il y a plus de texte, il y a juste du déplacement de corps, par exemple. J'ai vécu ça vraiment, par exemple, avec l'adaptation de Proche, en travaillant le texte avec les comédiens, où à un moment on s'est dit, mais la seule chose qui manque, maintenant, c'est plus le texte, c'est le déplacement dans l'espace. C'est l'espace, en fait.
Mais vous avez une écriture du mouvement, ça grouille dans la maison vide.
Ouais. Oui, donc c'est pour ça que j'ai parfois l'impression que ça aurait besoin de sortir du livre, en fait, un peu.
Et de vous?
Ouais, mais alors je me méfie un peu parce que je me méfie de lâcher les monstres à l'extérieur, oui, je sais pas, j'ai l'impression que tout ça peut... Mais j'aurais pas assez d'une vie, ça c'est sûr.
Non, mais ça on va s'arranger, vous inquiétez pas. C'est moi Mephisto. Alors, dans les écrivains que vous affectionnez, il y a Balzac, Proust, Faulkner, Claude Simon, Thomas Bernard, ceux du nouveau roman, Coltès, Duras, Sarraute, Céline et Joyce. Est-ce que vous pourriez faire quelques recommandations aux auditeurs? Et ça peut être aussi des recommandations d'écrivains qui ne se trouvent pas dans cette liste.
Ah bah oui, bah alors je vais... Munoz Molina.
Ah bah oui.
Munoz Molina, direct. Munoz Molina, j'adore Munoz Molina.
Un titre en particulier?
Dans La Grande Nuit des Temps. C'est un très gros livre, mais vous ne serez pas déçus. Ça, franchement, je vois pas comment on pourrait être déçu en lisant dans la grande. Et là, il a sorti un roman là que j'ai pas encore lu, mais qui est sorti au mois de septembre. Et c'est un très grand auteur.
Et alors, en cinéma, qu'est-ce que vous aimez?
Alors, au cinéma, qu'est-ce que j'aime? J'aime tellement de choses que là, je sais pas. Alors, pour le coup, comme effectivement vous disiez, j'étais malade. Ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de
film. Là, vous allez y retourner?
Oui, j'espère pouvoir bientôt retourner au cinéma. Ouais, ça me manque, par exemple. Une grosse envie de cinéma. Pas simplement de voir des films, mais de voir des films en salle, quoi.
Et alors, j'ai envie de vous poser une question que j'ai posée pendant 10 ans en début d'émission. Quel est votre rapport à la mélancolie?
J'ai un rapport très... très... très complice. La mélancolie.
Ça a toujours été le cas?
Non, parce qu'avant, c'était pas de la mélancolie. Avant, c'était
du désespoir.
C'était du désespoir, ouais. Et maintenant, j'ai de la mélancolie, mais elle est douce. Elle me tient souvent en compagnie. C'est plutôt... vous voyez, j'aime pas le matin qu'on me dérange, par exemple. Et c'est souvent des moments mélancoliques.
Oui.
Mais c'est doux, je les aime. Hein, c'est pas du tout triste. C'est pas du tout des moments tristes. C'est des moments de, je sais pas, c'est mélancolie. Ça peut être un peu aussi de recueillement, en fait.
Ouais, d'entrer en soi, ce qui est nécessaire à la création aussi. Merci beaucoup, Laurent Mauvigny.
Merci.
La Maison Vide est parue aux éditions de Minuit. Vous serez à la Maison de la Poésie à Paris le 13 octobre prochain, accompagné de l'acteur Laurent Poitrenaud. Le public pourra aussi vous retrouver à Toulouse le 18 octobre au Théâtre Garonne, où vous ferez une signature également dans la journée à la librairie Ombre Blanche. Et en parlant de signature en librairie, vous avez une tournée de rockstar. Alors je vais seulement donner les villes, toutes les infos seront sur le site des éditions de Minuit, j'imagine. Vous passerez par Nantes, Lille, Paris, Grenoble, Valence, Blois pour les rendez-vous de l'histoire, Charenton-le-Pont et Pau. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Louise Tempero, Louise Morfoas, Franck Olivard et Fanny Leroy, dont l'aide fut particulièrement précieuse. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Jérôme Ragano. À demain !